Échéance. Chapitre 3. Julia leva les yeux et se trouva seule. Elle ne se rappelait ni quand ni comment son mari avait quitté le salon, ni depuis combien de temps elle y était. Le feu couvait encore dans le foyer, mais le rayon de soleil avait disparu du mur. La première pensée qu'elle put ressaisir fut qu'elle n'avait pas manqué à sa parole, qu'elle avait rempli leur engagement à la lettre. Elle ne s'était pas récriée, n'avait pas récriminé sur le passé et n'avait tenté ni de temporiser, ni de reculer le dénouement. Elle avait courageusement marché au-devant de l'ennemi. Mais maintenant qu'elle se trouvait seule, elle voulut en finir. Elle regardait autour d'elle, cherchant à réaliser le présent. Son identité semblait lui échapper comme dans une syncope physique. « Ceci est mon salon, ceci est ma maison », disait une voix en elle. Son salon, sa maison. Elle entendait presque les murs lui répondre ironiquement. Elle se leva, lasse, jusque dans la moelle des os. Le silence de la pièce l'impressionna. Elle se rappela alors, comme un vague écho, avoir longtemps auparavant entendu la grande porte se fermer. Son mari devait avoir quitté la maison alors. Son mari? Elle ne savait plus comment exprimer sa pensée. Les phrases les plus simples étaient pleines d'amertume. Elle retomba exténuée sur sa chaise. La pendule sonna 10 heures. Il n'était que 10 heures. Tout à coup, elle se souvint qu'elle n'avait pas commandé le dîner. Ou bien dînait-il dehors ce soir-là? Dîner? Dîner dehors? La vieille phraséologie la poursuivait donc. Il lui fallait pourtant penser à elle comme elle penserait à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui n'aurait plus aucun lien avec la routine familière du passé et dont il faudrait étudier peu à peu les besoins et les habitudes, tel un animal inconnu. La pendule sonna de nouveau. Il était 11 heures cette fois. Julia se leva et se dirigea vers la porte pour aller dans sa chambre. Sa chambre. Une fois de plus, ce mot lui parut une dérision. Elle ouvrit pourtant la porte, traversa l'antichambre et monta à l'escalier. Elle remarqua en passant les cannes et les parapluies de West Hall, puis une paire de ses gants oubliés sur la table. C'était bien toujours le même tapis qui couvrait les marches de l'escalier, c'était la même vieille gravure française dans son étroit cadre noir qui lui faisait face sur le palier. L'obstination avec laquelle ces objets s'imposaient à elle devint intolérable. Au fond d'elle-même, un abîme béant. Autour d'elle, la même apparence calme et familière. Elle sentit qu'il lui faudrait s'éloigner pour ressaisir ses pensées. Mais une fois dans sa chambre, elle s'assit sur la chaise longue et se laissa envahir par une espèce de torpeur. Puis, graduellement, sa vision s'éclaircit. Il s'était passé beaucoup de choses dans l'intervalle. Il y avait en Julia un vrai conflit d'émotions, d'arguments, d'idées s'entrechoquant, d'impulsions violentes qui s'émoussaient d'elles-mêmes. Elle avait bien essayé de rallier, d'organiser ses forces désordonnées, qu'elle pût seulement dompter ses révoltes intérieures, et elle entreverrait sans doute la délivrance. Sa vie ne pouvait être ainsi brisée par un caprice, une lubie. La loi elle-même serait pour elle, la défendrait. La loi? Mais quel droit y avait-elle? N'était-elle pas fatalement prisonnière d'une loi dont elle avait été le propre auteur? Ne devenait-elle pas ainsi la victime prédestinée du code qu'elle avait inventé? Mais non, tout ceci n'était qu'une fantasmagorie grotesque, intolérable, une folle erreur dont elle ne pouvait être rendue responsable. La loi qu'elle avait méprisée existait toujours et pouvait encore être invoquée. Invoquer? Dans quel dessein? Pouvait-elle lui demander d'enchaîner West Hall à elle? N'avait-elle pas permis à Julia de se rendre libre quand elle avait réclamé sa liberté? Montrerait-elle moins de magnanimité qu'elle n'en avait exigé? Ce mot de magnanimité la cingla de son ironie. On ne prend pas une attitude quand on lutte pour sa vie. Et Julia prévoyait déjà que pour garder son mari, elle consentirait au pire compromis, cédant sur tout pour conserver son bonheur passé. Ah, mais c'était plus difficile qu'elle ne le pensait. La loi ne pouvait plus lui servir. Sa propre apostasie deviendrait inutile. Julia était la victime des théories qu'elle reniait. Elle se sentait déjà prise dans l'engrenage d'une machine gigantesque qu'elle aurait fabriquée elle-même. L'après-midi, elle sortit et marcha vite, sans but, redoutant de rencontrer des visages connus. La journée était radieuse. Le ciel bleu d'acier. C'était une de ces journées américaines toutes vibrantes de lumière, par lesquelles on aime à se sentir vivre. Mais les rues lui parurent vides, affreuses. Et sous ce ciel éclatant, tout lui sembla prendre des proportions exagérées. Elle héla un hansom qui passait devant elle et donna au cocher l'adresse de Mrs. Van Sideren. Elle ne s'expliquait pas bien ce qui lui avait inspiré cet acte, mais elle se sentait tout à coup décidée à parler, à avertir la jeune fille. Il était trop tard pour se sauver elle-même, mais il était encore temps de parler à Una. Le hansom roula vers la 5e avenue, tandis qu'assise, les yeux fixés, elle cherchait à éviter les regards des gens qu'elle connaissait. Arrivée chez les Van Sideren, elle sauta de la voiture et sonna. La clarté s'était faite dans son cerveau à mesure qu'elle agissait. Et elle se sentait maintenant calme et maîtresse d'elle-même. Elle savait exactement ce qu'elle allait dire. Ces dames étaient sorties toutes deux. La parlour maid étendit la main pour recevoir la carte de Julia. Mais elle balbutia quelques mots vagues, tourna le dos à la porte et s'attarda un instant sur le trottoir. Puis, elle se rappela qu'elle n'avait pas payé le cocher et, tirant un dollar de son porte-monnaie, elle le lui tendit. Le cocher porta la main à son chapeau et repartit, la laissant seule dans la rue déserte. Elle erra vers l'ouest, vers des rues peu fréquentées où elle n'aurait aucune chance de rencontrer des gens de connaissance, sans aucun but et n'en voulant pas avoir. Un moment, elle se trouva perdue dans la foule qui, l'après-midi, se presse d'en brodouer. Elle passa vite devant les boutiques, les étalages voyants, les affiches de théâtre. Ne regardant même pas les physionomies banales des gens qui la croisaient. Elle se rappela soudain qu'elle n'avait pas déjeuné. Dans une rue aux maisons délabrées, elle vit sur une fenêtre de sous-sol l'enseigne « Restaurant de dames » et à l'étalage une tarte à côté d'un plat de donuts desséchés. Elle entra dans la salle où une jeune fille à la bouche insignifiante et aux yeux hardis se hâta de lui débarrasser une table près de la fenêtre. Cette table était recouverte d'une nappe rouge et blanche sur laquelle on avait placé près de la salière remplie de sel grisâtre un verre grossier d'où sortait une branche de céleri. Julia se commanda du thé et l'attendit longtemps. Elle était heureuse de se sentir loin du brouhaha des rues, dans cette salle vide. Seules, deux ou trois jeunes filles au visage pâle et impertinent flânaient dans le fond et bavardaient à voix basse, tout en lui jetant parfois un coup d'œil. Enfin, on lui servit le thé dans une théière de métal désargenté. Elle s'en versa une tasse qu'elle but hâtivement. Le thé était noir et amer, mais il agit sur elle comme un réconfortant Et bientôt, Julia s'exalta jusqu'à en avoir le vertige. Mais ce ne fut que pour retomber ensuite dans l'abattement le plus complet. Elle but une seconde tasse de thé, plus noire et plus amère encore, et de nouveau la lucidité lui revint. Elle se sentit aussi énergique, aussi décidée que sur le seuil de la maison de Van Sideren. Mais elle n'avait aucune envie d'y retourner, voyant bien l'inutilité d'une telle tentative et l'humiliation à laquelle elle s'exposait. Et maintenant, elle ne savait plus à quoi se résoudre. La courte journée d'hiver touchait à sa fin. Elle ne pouvait, sans attirer l'attention, s'attarder davantage dans le restaurant. Elle paya donc son thé et sortit. Les réverbères étaient déjà allumés, et ça et là, du soubassement d'une boutique jaillissait une lueur oblongue qui se reflétait sur le pavé. Ainsi, vue à la nuit, la rue avait un aspect sinistre, et Julia se hâta de revenir vers la 5e avenue. Elle n'était pas habituée à être dehors seule à cette heure-là. Au coin de la 5e avenue, elle s'arrêta pour regarder passer les voitures. À la fin, un sergent de ville l'aperçut et lui fit signe qu'il la ferait traverser. Elle n'avait pas eu l'intention de traverser, mais elle obéit automatiquement et se trouva tout à coup au coin opposé. Là, elle s'arrêta encore un instant, mais s'imaginant que le sergent de ville la regardait, elle se décida à tourner dans la rue la plus proche. Et elle marcha ensuite longtemps, et sans but. La nuit était tombée et elle apercevait parfois à travers les vitres des voitures qui passaient un coin de gilet blanc qui se détachait dans l'obscurité ou le reflet d'une sortie de balle pailletée. Tout à coup, elle se trouva dans une rue connue et s'arrêta brusquement, ayant tourné le coin sans remarquer où cela menait. À quelques mètres devant elle se trouvait la maison dans laquelle elle avait vécu autrefois, la maison de son premier mari. Les volets en étaient fermés et une faible lueur seulement indiquait les vitres de l'imposte au-dessus de la porte. Et tandis qu'elle était là, debout, immobile, elle entendit un pas et vit passer à côté d'elle un homme qui se dirigeait vers la maison. Il avançait lentement, avec la démarche alourdie d'un homme entre deux âges, la tête un peu enfoncée entre les épaules, le pli rouge de sa nuque bien marqué au-dessus du col de fourrure de son pardessus. Il traversa la rue, monta les marches, tira de sa poche un passe-partout et entra. La rue était déserte. Julia s'attarda un instant au coin, les yeux fixés sur la façade de la maison. Une faiblesse physique l'envahissait de nouveau. Mais la vigueur factice que lui avaient donnée ces deux tasses de thé rendait encore ses idées d'une lucidité extraordinaire. Tout à coup, elle entendit un bruit de pas qui se rapprochait et aussitôt, elle traversa la rue et monta les marches de la maison. Le mouvement impulsif qui l'avait mené ici se prolongea jusque dans le geste par lequel elle pressa le bouton électrique. Puis, elle se sentit subitement faible et tremblante et saisit la balustrade pour se soutenir. La porte s'ouvrit et un jeune valet de pied avec une figure fraîche et inexpérimentée se présenta. Julia vit aussitôt qu'il la laisserait entrer. « J'ai vu passer Monsieur Armand tout à l'heure, » dit-elle. « Voulez-vous lui demander de me recevoir un instant ?» Le valet de pied hésita. « Je crois que Monsieur Armand est monté s'habiller pour le dîner, madame. » Julia s'avança dans le vestibule. « Je suis sûre qu'il me recevra. Je ne le retiendrai pas longtemps. » Elle parlait avec calme, en prenant ce ton auquel un domestique stylé ne se méprend pas. Le valet de pied avait déjà la main sur la porte du salon. « Je le lui dirai, madame. Qui aurais-je l'honneur d'annoncer ?» Julia trembla. Elle n'y avait pas pensé. « Dites simplement une dame, » répondit-elle. Le valet de pied hésita de nouveau et elle se crut perdue, mais au même instant la porte du salon s'ouvrit et John Armand parut. Il se retira brusquement en la voyant, sa figure colorée devenue tout pâle d'émotion. Puis, le sang lui remonta au visage, faisant enfler les veines de ses tempes et rougissant les lobes de ses oreilles épaisses. Il y avait longtemps que Julia ne l'avait pas vue et elle fut frappée de son changement. Devenu encore plus vulgaire, il était complètement envahi par la graisse. Mais elle ne s'en aperçut que petit à petit, car son unique préoccupation était, maintenant qu'elle le tenait en face d'elle, de ne pas le laisser échapper avant qu'il ne l'eût entendu. Toutes les facultés de son être semblaient concentrées sur cette unique idée. « Il faut que je vous parle !» dit-elle en s'avançant vers lui, tandis qu'il reculait. Armand hésita, rouge et balbutiant. Julia jeta un coup d'œil sur le domestique et son regard agit sur Armand comme un avertissement. L'horreur instinctive d'une scène domina chez lui tout autre sentiment et il dit avec lenteur
« Voulez-vous venir par ici ?»
Il la suivit dans le salon et ferma la porte. Julia, en avançant, se rendit vaguement compte que la pièce n'avait pas été changée. Le temps n'avait rien diminué de l'horreur qu'elle lui avait inspirée. La contadine souriait toujours sur la cheminée, et l'esclave grec obstruait le seuil du salon du fond. Tout était vivant de souvenirs. Elle les retrouvait dans chaque pli des rideaux de satin jaune, dans chaque coin du mobilier de palissandre. Mais tandis que quelques objets intermédiaires lui transmettaient ses impressions, tous les efforts de sa volonté se concentraient dans le seul acte de dominer Armand. La crainte qu'il ne refusât de l'écouter montait comme une fièvre à son cerveau. Elle sentait son but même lui échapper, et dans son désir aveugle, intense, les mots et les arguments se heurtaient confusément. Un instant, la parole lui manqua, et elle s'imagina être rebutée avant de pouvoir parler. Mais comme elle cherchait ses mots, Armand lui poussa une chaise et lui dit tranquillement
« Vous n'êtes pas bien ».
Le son de sa voix rendit à Julia un peu d'aplomb. Cette voix n'était ni douce, ni sévère. C'était la voix d'un homme qui suspendait son jugement en attendant des explications ultérieures. Elle s'appuya contre le dossier de la chaise et soupira profondément.
« Il faut envoyer chercher un remède ?» continua-t-il avec une politesse froide et embarrassée.
Julia leva la main pour l'implorer.
« Non, non, merci, je vais très bien. »
Il s'arrêta à mi-chemin de la sonnette et se retourna vers elle.
« Alors ?»
Elle reprit.
« Il y a une chose qu'il faut que je vous dise. »
Armand continua à la scruter.
« J'aurais pensé, répondit-il, que toute communication de vous à moi aurait pu être faite par nos hommes d'affaires.
« Nos hommes d'affaires ?»
Elle rit nerveusement. « Je ne pense pas qu'ils puissent être pour moi d'aucun secours. » La figure d'Armand prit l'expression de quelqu'un qui est décidé à ne pas se laisser attendrir.
« S'il est question de secours, bien entendu. »
Elle se rappela avoir vu cette même expression sur son visage quand quelques miséreux venaient frapper à sa porte avec un livre de quête. S'imaginait-il par hasard qu'elle venait mendier un peu de sympathie, comme on vient mendier une aumône ? Cette pensée la fit encore sourire. Elle vit le regard d'Armand devenu de plus en plus perplexe. Toutes les transformations qui se faisaient sur son visage étaient lentes, et elle se rappela subitement comme cela l'avait divertie. Autrefois, de changer d'un mot cette pénible mise en scène. Elle se rendit compte pour la première fois qu'elle avait été cruelle.
« Oui, il s'agit de secourir, » dit-elle sur un ton plus doux. « Et vous pouvez le faire en m'écoutant. J'ai une chose à vous dire. »
Armand ne cédait pas encore.
« Ne serait-il pas plus facile d'écrire ? » suggéra-t-il.
Elle secoua la tête.
« Il n'y a pas le temps d'écrire, et cela ne sera pas long. »
Elle leva la tête et leurs yeux se rencontrèrent.
Mon mari m'a quittée, dit-elle.
West Hall ?
Balbutia-t-il en rougissant encore. Oui, ce matin, exactement comme je vous ai laissé parce qu'il était fatigué de moi. Ces mots prononcés à voix basse semblèrent porter jusqu'au fond de la pièce. Armante regarda du côté de l'antichambre, puis son regard embarrassé se fixa de nouveau sur Julia.
« J'en suis très fâchée, » dit-il gauchement.
« Merci, » murmura-t-elle.
« Mais je ne saisis pas. »
« Non, mais vous saisirez, dans un instant. Ne voulez-vous pas m'écouter, je vous en prie. » Instinctivement, elle avait changé de position, se plaçant entre la porte et lui.
« Cela s'est passé ce matin, » continua-t-elle, s'exprimant en phrases courtes, haletantes.
« Je ne soupçonnais rien. Je croyais que nous étions parfaitement heureux. Tout à coup, il m'a dit qu'il était fatigué de moi. Il me préfère une jeune fille. Il est allé la rejoindre. »
Comme elle parlait, une angoisse latente l'envahit, la dominant à l'exclusion de tout autre sentiment. Ses yeux brûlaient, sa gorge se gonflait, et deux larmes douloureuses coulèrent sur ses joues.
La contrainte d'Armante augmentait visiblement.
« C'est très malheureux, » dit-il.
« Mais il me semble que la loi... »«
La loi ?» répondit-elle ironiquement.
« Quand il me demande sa liberté. »«
Vous n'êtes pas forcé de la lui rendre, » répondit Armante.
« Vous non plus, vous n'étiez pas forcé de me rendre la mienne, et pourtant vous l'avez fait. »
Il eut un geste de protestation.
« Vous avez vu que la loi ne pouvait pas vous servir, n'est-ce pas ? » continua-t-elle. « C'est ce que moi je vois aussi maintenant. La loi représente des droits matériels. Son effet ne s'étend pas au-delà. Si nous ne reconnaissons pas une loi intérieure, si nous ne reconnaissons pas les obligations que crée l'amour et le fait d'être aimé tout autant que d'aimer, nous entassons fatalement des ruines autour de nous. N'est-ce pas ? »
Elle releva la tête avec le regard plaintif d'un enfant égaré.
« C'est ce que je vois aujourd'hui, ce que je voulais vous dire. Il me quitte parce qu'il est fatigué de moi. Mais moi, je n'étais pas fatiguée de lui. Et je ne comprends pas pourquoi il l'est. C'est ce qu'il y a de plus affreux, ne pas comprendre. Je n'en avais pas saisi l'horreur, mais j'y ai pensé toute la journée et il m'est revenu à la mémoire des choses que je n'avais pas remarquées quand vous et moi... »
Elle se rapprocha de lui et le fixa avec ce regard qui cherche à pénétrer plus profondément que les paroles.
« Je vois maintenant que vous non plus, vous n'avez pas compris, n'est-ce pas ?»
De leur regard jaillit tout à coup de la lumière. Le voile qui les séparait sembla se lever. Les lèvres d'Armande tremblèrent.
« Non, dit-il, je n'ai pas compris. »
Elle poussa presque un cri de triomphe.
« Ah, je le savais bien !»« Vous étiez étonnée. Vous avez essayé de me le dire, mais aucun mot n'est venu. Vous avez vu votre vie brisée, tout ce qui vous entourait en ruine, et vous ne pouviez ni parler ni bouger. »
Elle se laissa tomber sur la chaise contre laquelle elle s'était appuyée.
« Maintenant, je sais. Oui, je sais, » répétait-elle.
« Je suis désolée pour vous, »
entendit-elle balbutier à Armante. Elle lui jeta un coup d'œil triste.
« Je ne suis pas venue pour cela. Je ne vous demande pas d'être désolée. Je suis venue pour vous demander de me pardonner, de n'avoir pas compris que vous ne me compreniez pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. »
Elle se leva avec le vague sentiment que c'était fini et elle tendit la main vers la porte. Armante restait là, immobile. Elle se retourna vers lui, s'efforçant à sourire.
« Vous me pardonnez ? »
dit-elle.
« Il n'y a rien à pardonner. »
« Alors vous me donnerez une poignée de main avant que je vous quitte ?»
La main qu'Armante mit dans la sienne était une main inerte, sans volonté.
« Au revoir !»
dit-elle.
« Je comprends maintenant. »
Elle passa dans le vestibule. Armande fit un pas en avant, mais
Juste au même moment, le valet de pied qui connaissait son service s'avança. Julia entendit Armand qui se retirait. Le valet de pied ouvrit la porte toute grande et elle se trouva dehors, dans la nuit.